La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter en direct, également en podcast. N'hésitez pas, le premier débat sur Kylian Mbappé et cette finale de Coupe de France face à Lyon est déjà disponible. Toujours ce matin avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Pascal Duprat, Fred Weiss, Nadal, Zverev. On en parle dans quelques instants. C'est le choc du premier tour du tournoi de Roland-Garros. Croyez-vous au miracle Nadal? Ce sera le bras de fer. 10h30, la ministre des Sports s'invite dans le débat sur la lutte contre l'homophobie et la polémique Camara. Le joueur de Monaco, Amélie Oudéa-Castéra, s'attaque au joueur et au club. Faut-il sanctionner les deux? Ce sera la punchline des GG. La finale de la Champions Cup Toulouse-Leinster. Les Toulousains à la recherche de leur 6e étoile cet après-midi. Le Stade Toulousain est-il le plus grand club de France? Tous sports confondus, ça tombe bien, j'ai un footballeur, j'ai un basketteur, bon, le tennis compte moins pour les clubs, mais je sais que tu as un avis sur cette question, Marion, et puis Christophe, fan de rugby, nous donnera son sentiment. On ouvre le débat en tout cas à 11h. Allez tout de suite, c'était le 3 juin 2022, l'incroyable demi-finale Nadal-Zverev.
RMC, le bras de fer GG.
Oh là 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 là, c'est hallucinant. Il a perdu sa raquette au moment d'exécuter ce coup droit. Ça fait quand même 2 coups là dans ce jeu de service. Il est encore là. Non, il ne pourra pas la ramener. Exceptionnel échange encore. Standing ovation. Allez, on y retourne.
Oui. Attention. Attention.
Aïe, aïe, aïe.
Attention, attention, attention.
Oh non, attention. Ce serait terrible. Oh, c'est pas possible. Il est en fleurs, Zverev.
C'est très sérieux.
Il était en train de nous offrir un match d'anthologie avec Rafael Nadal.
La cheville a détourné.
Au commentaire, nos amis de France Télévisions. 2 ans plus tard, Rafael Nadal et Alexander Zverev vont se retrouver à Roland-Garros. Pas pour une place en finale, non. Pour ne pas sortir d'entrée, le tirage tant redouté a eu lieu jeudi. Difficile de faire pire pour un tour de chauffe. Le numéro 4 mondial, difficile de faire pire pour Zverev. Également, l'homme aux 14 titres, porte d'Auteuil, ce sera son adversaire. Dynamique totalement différente pour les deux hommes. L'Allemand vient de remporter le Masters 1000 de Rome. L'Espagnol, lui, n'a aucune certitude pour son dernier Roland-Garros. Croyez-vous au miracle Nadal? Dans le coin gauche, la team oui, j'y crois. Marion Bartoli, Pascal Duprat. Dans le coin gauche, la team non, malheureusement, je n'y crois pas. Christophe Cessieux, Fred Weiss. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Bonjour Eric.
Salut les grandes gueules.
C'est vrai que c'est le pire Eric. Scénario possible pour Nadal, peut-être même pour l'organisation.
Oui, je vais revenir sur ce moment fort. L'Orangerie, jolie bâtisse dans les serres d'Auteuil, jeudi, 13h41, l'heure du crime. Depuis quelques minutes, le nom de Rafael Nadal est placé sur la 34e ligne du tableau. La mécanique du tirage au sort est telle qu'il va forcément jouer la tête de série numéro 3 ou la tête de série numéro 4. Marie-José Pérec plonge alors sa main innocente dans la coupe.
Numéro 4, Alexander Zverev.
Quelques minutes plus tard, devant les micros, la triple championne olympique est encore catastrophée.
Non mais sans déconner, ma petite main, elle aurait pu être plus gentille, non? Avec Nadal, non, vous pensez pas? Je pense que c'était écrit. Je pense qu'en fait, je crois qu'ils avaient envie de se raconter quelque chose après ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je pense qu'ils avaient envie de se retrouver tout de suite, non? Ah bah bien sûr, maintenant que je l'ai foutu dans la merde, il faut quand même que je les supporte.
Pas loin de là, Mélie Mauresmo fait grise mine. La fiche est chanteuse, hein, mais elle sait que les ennuis débutent.
Nadal Zverev au premier tour pour attaquer, c'est chaud, c'est costaud. Ça va être évidemment extrêmement intéressant. Voilà, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire.
On se souvient de 2022 notamment.
Bien sûr, cette demi-finale qui malheureusement s'achève difficilement pour Sacha Zverev. Ouais, je pense que des deux côtés, il y aura des sentiments un peu mêlés effectivement au moment d'entrer sur le court.
Si l'Espagnol n'est pas encore passé par la case conférence de presse, Sacha Zverev a expliqué hier comment il avait été informé et croyez-moi, ça l'a pas fait rire.
My brother told me, and I actually thought
Mon frère m'a prévenu et j'ai cru qu'il blaguait au début. Je voulais absolument de nouveau jouer contre Rafa. Je ne voulais pas garder l'image d'un fauteuil roulant en quittant le court, mais je ne voulais pas jouer contre lui au premier tour, plutôt en finale ou en demi-finale. Mais on est prêt pour une bataille difficile lundi.
We'll see how it goes on Monday.
Ouais, on verra lundi. On a tous en mémoire le formidable combat en demi-finale il y a 2 ans. La pendule indiquait 3 heures et la deuxième manche n'était pas encore achevée. Le tout Paris va vouloir assister à ce combat de poids lourd, lequel devrait être programmé lundi après-midi. Mais le conditionnel, parce qu'on va attendre l'officialisation, de quoi réjouir les fans de tennis parce que la partie serait alors accessible sur France Télé. Et Rafa ne serait pas mécontent non plus parce que son lift serait plus efficace. En revanche, Amazon Prime, qui a payé cher les Night Sessions, destinées à proposer l'affiche de la journée, devrait encaisser l'uppercut. Mais l'éventuelle possibilité d'une cérémonie d'adieu passée minuit a dû refroidir la FFT.
Merci beaucoup Eric Salio pour toutes ces précisions, pour ce reportage très intéressant sur cette journée de jeudi, ce tirage au sort fantastique ou pas, hein, qui voit s'opposer donc Rafael Nadal à Alexander Zverev. Croyez-vous au miracle Nadal? Évidemment, on a beaucoup de questions à se poser et nous allons monter en pression tout doucement tout le week-end pour ce match qui va se disputer lundi. Alors j'ai deux camps qui s'affrontent et on vous a posé la question sur le compte Twitter, le compte X des grandes gueules du sport. C'est extrêmement serré, mais il y a une petite tendance qui se dégage. Croyez-vous miracle Nadal, c'est non à 54%, oui à 46%. Le camp du oui, Pascal Duprat, Marion Bartoli, vous commencez pour faire votre retard. Marion, tu commences. Pourquoi oui ?
Pourquoi oui ? Parce que tout simplement, déjà, quand on a remporté cette épreuve à 14 reprises, on ne peut pas dire qu'un joueur n'a aucune chance de gagner le match. C'est impossible. Et d'ailleurs, on l'entend parfaitement dans les propos de Sacha Zverev en conférence de presse. Il sait très bien que c'est un tirage horrible pour lui, que c'était le pire des tirages au premier tour. Et qu'il est loin de penser qu'il est largement favori sur ce match. Parce qu'encore une fois, Rafael Nadal, à Roland-Garros, nous a prouvé au fil des années que parfois il arrivait sans gagner Monte-Carlo, sans gagner Madrid, sans gagner Rome. On disait, ça y est, il est fini, il a mal de partout, il est cassé de partout, c'est terminé. Et puis il gagnait, et puis il écrabouillait tout le monde, et il archi-dominait ses concurrents. Encore une fois, la terre battue sur ce court, Philippe Châtrier, c'est sa maison, c'est son jardin, son lift, qui est bien sûr connu dans le monde entier, prend l'effet encore plus sur cette surface. Et raison pour laquelle je pense qu'effectivement, il a effectué la demande de jouer en journée pour que les conditions soient encore plus vives et que la balle remonte encore plus lorsqu'il effectuera ses coups droits. J'ai eu l'occasion et la chance de le voir s'entraîner il y a 24 heures. Il jouait à 2-1. Et je peux vous dire que c'est sparring. Il était obligé de sauter en l'air et faire 1 mètre de saut pour arriver à jouer la balle. Sinon, il est lobé à chaque fois.
Donc c'est encore impressionnant.
Non, pour moi, quand je le vois s'entraîner aujourd'hui, je vois son regard, je vois l'intensité qu'il met, je me dis pas qu'il n'a aucune chance de battre Sacha Zverev. Et je terminerai sur un point. Ils sont affrontés 5 fois sur terre battue. Je compte pas les autres confrontations sur d'autres surfaces. Et c'est 4-1 pour Nadal.
Ok, c'est très clair, mais le camp du non maintenant, Fred Weiss.
Alors moi, j'entends tout ce que dit Marion et jusque-là, j'étais à peu près d'accord. Sauf qu'il faut quand même se rendre compte de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il a 37 ans. Alors qu'à un moment, même si tu as été bon à Roland-Garros, à un moment, tu vieillis quand même.
Fred, il a gagné Roland sur un pied.
Ouais, alors, d'accord, sauf qu'il n'avait pas 37 ans.
Oui, mais il a gagné Roland sur un pied. Il a joué sur une jambe.
Eh bien, on verra s'il peut jouer à 37 ans sur ses deux jambes. Moi, je demande à voir. Mais pour moi, en plus, c'est le tirage le pire possible. Parce que Zverev, ils ont cette histoire en commun, justement, où il a dû abandonner à cause de sa blessure en 2022, etc. Zverev va vouloir faire un bon match, va vouloir être parfait. Il vient de sortir d'un tournoi à Rome où il a été très bon, sur terre battue, il est parfait. Pour moi, au contraire, c'est une chance magnifique pour Nadal. Parce que si tu perds le premier tour, justement, contre Zverev, c'est quand même mieux, tu restes dans la légende, tu n'entaches pas ta légende. Justement, s'il était tombé contre un lambda, un kidam.
Tu penses sérieusement qu'il entamerait sa légende, quel que soit le match?
C'est impossible. Roger Federer a perdu son dernier set à Wimbledon en perdant 6-0. Il a perdu le dernier double qu'il a joué dans l'Ever Cup, qui est son tournoi. Et sa légende restera éternelle.
La légende, elle est intouchable, la légende de Nadal. Mais ce serait triste.
Bien sûr.
Ce serait triste de voir partir face à un obscur, tu vois, de prendre, pas 3 fois 6-0, mais n'est pas loin, tu vois, face à un joueur à qui il aurait mis des roustes les années précédentes. Là, moi, je trouve que c'est une occasion parfaite. C'est génial, ce match.
C'est génial, ce match.
Parce que, pour autant,
tu lui accordes aucune chance.
J'ai dit que j'ai du mal à croire au miracle.
Je dis qu'il y a des chances que Nadal l'emporte.
J'ai pas besoin d'aller
sur le domaine technique parce que Marion nous a raconté de manière exemplaire quel était le joueur.
Mais bien
phénoménal.
Moi, j'aimerais simplement, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on brûle trop vite ce que l'on a aimé.
J'aimerais, j'anticipe sur une performance remarquable de
Nadal. Mais tu sais, je voudrais voir Nadal persévérant, résilient, pas vieux
comme j'ai entendu les commentaires aussi irrespectueux. On dit aujourd'hui, je l'ai entendu sur une chaîne, que Nadal faisait pitié, qu'il était vieux. Non mais franchement, Nadal est vieux.
Non mais c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'il y a Nadal, c'est plus compliqué.
Il va jouer contre quelqu'un qui joue très bien au tennis
et c'est quelqu'un qui monte en puissance.
Est-ce que je peux finir?
Mais non, t'as déjà fini.
Je vais parler de Zverev. Ne crois-tu pas que Zverev pourrait être un brin crispé en se souvenant de ce qui s'est passé avant, ne pourrait pas être une force pour Nadal supplémentaire.
Ça n'a rien à voir. Motivé, crispé, ça n'a rien à voir. Et quand on l'écoute, encore une fois, écoutez ce que les joueurs disent. Zverev, c'est pas quelqu'un qui pratique la langue de bois, en tout cas pas sur ce genre de questions. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'aurais préféré jouer Rafa en demi ou en finale qu'au premier tour. Au premier tour, lorsque tu viens de gagner un tournoi, t'as 5-6 jours d'arrêt et que tu repars sur un court, il faut remettre le tablier et que t'as en face de toi Nadal et tu vas déjà entendre son palmarès pendant les 5 minutes d'échauffement avec Marc Moret qui va t'annoncer qu'il a gagné chaque année, que tu sais que 2 ans avant, tu t'es battu comme un chien pendant 3 heures et que malgré ça, t'es en train de perdre le match. Parce qu'il faut quand même pas l'oublier. Il y avait 7-6, 6 partout, mais c'était 7-6 pour Nadal. Alors que Zverev, moi, j'étais sur le bord du terrain pour faire ce match, il jouait le tennis de sa vie.
Et que Rafa était sur une jambe. Mais t'as tout ça qui dans ta tête, ça n'a aucune importance, s'il vous plaît, de gagner.
Christophe, s'il te plaît, c'est mon sport. Écoute-moi.
Écoute-moi, je te le dis.
Nadal à Roland Garros, il est arrivé dans les tournois avec aucun point de repère. Ces discussions, j'ai l'impression qu'on les avait déjà il y a 5-6 ans, et c'est pas Eric qui me contredira. Et pourtant, chaque
Il n'avait pas 37 ans, Marion. Il dominait à chaque fois,
il dominait complètement les Roland-Garros. Donc, s'il vous plaît, ne l'enterrez pas vivant, comme vous le faites, je ne peux pas supporter. On a dit qu'on avait du mal à croire
à sa qualification face à un mec qui vient gagner le tournoi de Rome. On a l'impression qu'on dit des insanités, arrêtez d'être en admiration totalement complètement dingue parce que c'est Nadal. Et vous voyez les choses en face.
Christophe, on est sur un match. Marion, si on peut plus se laisser parler, les copains, je sais que c'est un débat animé, c'est tant mieux, c'est Nadal, c'est notre passion et ce match va évidemment tous nous rassembler, on a tous très envie de le voir. Mais juste, Christophe n'a pas encore parlé, n'a pas pu dire ce qu'il a dit.
On peut pas en placer une.
Mais vas-y, Christophe.
L'une qui te dit, c'est le tennis, c'est mon sport, donc tu fermes ta gueule, et l'autre qui te dit,
vas-y.
Ça devient insupportable. Moi, c'est mon idole, là. Des trois, c'était mon préféré, des trois grands. J'adore ce type, j'adore Sarani et tout ça. Mais regardons un peu, quand même, dans quel état il est, quoi. Ça va, quoi. Même s'il a un immense palmarès, mais Suzanne Lenglet aussi, elle avait un super palmarès. Tu la mets sur le court aujourd'hui, elle va pas faire grand chose. Arrêtez un peu. Il y a l'âge, ça compte. Le nombre de matchs que tu joues, ça compte. Est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'il a la même longueur de balle, qu'il a
Combien de joueurs ont battu Rafa à Roland-Garros?
3.
Pardon ? Combien de joueurs ?
Il le fait
deux
au
joueurs.
Oui, mais tu...
Mais deux joueurs en 18 ans.
Oui, mais à un moment, il va perdre. Mario, on bien que tu peux plus le temps avant. Plus c'est compliqué. Mario, moi, nous, on entend, et je rejoins Christophe, on est tous d'accord que Dada, c'est
fantastique. C'était mieux avant, Mario, je suis d'accord.
C'était magnifique, c'était formidable. Il a 37 ans,
Fred,
il a
juste une remarque. Franchement, je suis vexé.
Attendez, Fred.
Je voudrais faire juste une remarque. La prochaine fois que Christophe me coupe la parole, je lui tire un coup de pied. Tu le sais. Ça y est. Ok.
Vas-y, Fred, et après, Pascal.
Mario, on entend ce que tu dis. En plus, on est d'accord avec toi, Nadal, c'est un champion fantastique, sauf qu'à un moment, tu joues contre Zverev qui est en forme. Et je suis persuadé que tout le monde serait d'accord pour dire qu'au départ, avant de connaître le tirage, tu dirais Zverev, il peut aller au bout ou pas loin. Donc, à un moment, Fred, il faut quand même se rendre compte. C'est une légende, je suis d'accord avec toi, Pascal, c'est une légende. Sauf qu'une légende, à un moment, ça s'arrête. Ça peut pas
jouer avancer un autre argument.
Ça n'a pas toujours la même puissance et ça joue pas la même manière.
Nadal, vous êtes tous d'accord avec moi qu'il n'a rien à prouver, et surtout pas à Roland Garros.
Bah, évidemment,
non mais vous pensez que dans son esprit, il pense qu'il a aucune chance.
Ah non,
vous pensez que dans sa tête, il essaye de se remettre en forme.
Il est persuadé qu'il va se
qualifier. Vous pensez qu'il a pas une idée derrière la tête?
C'est ça la mentalité des champions, c'est de rentrer sur un court.
Comment ça veut rien dire?
Mais non, ça veut rien dire du tout, parce que combien de fois
c'est la meilleure voie pour y parvenir. Il croit lui déjà.
Oui, mais
autrement il viendrait pas se mettre en spectacle.
Mais c'est pas suffisant, Pascal, parce que combien de joueurs de n'importe quel sport font l'année trop parce qu'ils pensent qu'ils pourront
réponse lundi après-midi. Moi, j'aimerais simplement vous dire, vous êtes à mon avis, vous êtes trop hâtif dans votre jugement. Vous savez déjà le résultat du match.
Mais vous savez, comme moi, qu'en sport,
et particulièrement en tennis, avec des phénomènes comme Nadal, il faut faire attention, y compris si ça fait quelques années qu'il a moins de performance.
Je reprends la main, parce que vous me la laissez tranquillement. La personne n'a sauté à la gorge de personne. Parfait. Écoutez Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, hier interrogé sur cette perspective d'affronter Rafael Nadal au premier tour. C'est le cas des Zverev, et eux sont bien contents que ça arrive à Zverev. On écoute les deux champions.
Honnêtement, non. Quand j'ai vu qu'il y avait 50% de chances que je puisse affronter Rafa, je me suis dit non merci.
It's a great event.
C'est un grand événement de jouer contre Rafael Nadal à Roland Garros. C'est un tirage difficile, que ce soit au troisième tour ou en huitième de finale, c'est encore plus dur. Mais le premier tour, ce n'est vraiment pas facile. Je vais faire en sorte de regarder ce grand match face à Zverev et je suis content de ne pas jouer contre lui au premier tour.
Et voilà pour les propos de Daniil Medvedev. Et si je résume la pensée de Marion et de Pascal, celui qui a le plus à perdre sur cette rencontre, c'est Alexander Zverev et c'est sur lui que sera la pression sur cette rencontre.
C'est lui qui aura plus de pression, ça c'est évident.
Renaud nous appelle au 32-16. Salut Renaud.
Bonjour toute l'équipe.
Bonjour. Tu vas avoir la lourde tâche.
Et grand bonjour à Marion Bartoli qui a gagné Wimbledon, magnifique carrière et
ah bon ?
Je tenais à saluer.
Bah tu as bien
et
raison.
Lui dire bravo parce que quand on gagne un tournoi du Grand Chelem, eh bien on rentre dans l'histoire du tennis. C'est ce que je dis assez souvent. Parce que sauf les fondus de tennis, moi je me souviens que Guillaume Raoult a gagné Brisbane en 92, mais à part ça, qui s'en souvient.
Ok, on va pas tirer sur les autres et sur les copains. Renaud, déjà réponds à notre débat.
Quand on gagne en grand chelem, voilà. On rentre dans l'histoire du tennis.
Réponds à notre question, et puis je sais que tu as voulu te mettre Marion dans la poche, t'as raison. Croyez-vous au miracle Nadal, Renaud?
Je crois qu'elle va te filer un billet.
Eh bien, j'aurais tendance à y croire. Alors, j'ai pas mal d'arguments à vous présenter. Par exemple, je vais commencer par un truc amusant. Souvenez-vous qui a gagné l'US Open en 1991. C'est Stéphane Edberg qui avait joué de façon magnifique et qui avait battu très sévèrement Jim Courier, qui n'avait pas fait un mauvais match. Souvenez-vous qui était en demi-finale. C'était Jimmy Connors. Il est en demi-finale de l'US Open, il a 39 ans. 39 ans. Et personne ne pensait que Connors aurait été capable de réaliser encore des performances en grand chelem. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que Nadal a tout à fait la possibilité de se qualifier. Pourquoi ? Parce que c'est un premier tour, parce que rentrer dans un tournoi du Grand Chelem et commencer un tournoi du Grand Chelem, c'est toujours difficile. Et ce sera difficile pour Zverev, parce que même s'il a gagné à Rome, où il a fait un très bon tournoi, et où il a eu quand même une finale, où malheureusement pour lui, le joueur chilien Nicolas Jarry a été un peu moins bon en finale que sur le reste de la semaine. Enfin, je dis pas ça pour minimiser bien sûr la victoire de Zverev.
Mais je veux juste t'interrompre un instant, il faut quand même que tu te rendes compte de l'exigence qui diverge depuis de 91 à 2024. Les exigences physiques, athlétiques et tout ce qui se passe sur un court, c'est pas exactement la même chose qu'en 91 en fait. Il y a quand même une évolution physique.
Oui, d'accord, mais il faut jouer l'US Open avec des surfaces qui sont extrêmement rapides. Et quand vous avez 39 ans et que vous jouez contre des joueurs qui sont quand même plus jeunes et plus rapides, c'était quand même pas évident non plus.
J'entends ce que tu dis, mais c'était il y a 30 ans. Et je te dis, l'évolution physique du sport en général et du tennis en particulier est quand même considérable.
Okay. Merci Renaud d'avoir participé à notre débat. Merci d'avoir composé le 32-16. Merci de ta fidélité.
Tu peux rajouter un élément?
Ah non, on n'a plus le temps, Marion, on n'a plus le temps. Ça dépend, si tu me dis 10 secondes, ok. Si en 10 secondes, tu peux le faire, ok.
10 secondes, sur les premiers tours et trois du Grand Chelem, c'est là où généralement Zverev perd des 7. Avant de prendre le rythme.
Mais nous, on veut qu'il en perde 3 des 7.
Oui.
Et pas seulement 2. Voilà.
Ben,
en tout cas, un gros match qui sera prévu lundi. Eric, tu seras de nouveau avec nous demain. On reparlera de Raphaël Nadal. On aura la programmation normalement demain.
Pas sûr, mais...
Encore ?
Non, je voulais dire à Pascal Duprat, il quadruplerait sa mise s'il joue Nadal. Donc, il faut se dépêcher de mettre ton PEA.
D'accord.
Non, c'est mais moi, c'est deux garçons qui m'intéressent. C'est dimanche après-midi pour lundi, la programmation.
Ok. Bon, on aura une réponse dimanche après-midi. Et forcément, nous allons suivre ce dossier attentivement. Débat animé. Si vous venez de le prendre en cours, n'hésitez pas à aller nous réécouter en podcast. Mes chers auditeurs, dans quelques instants, vous donnez le résultat tout de même. Nous sommes partis à 46-54. 46%, oui, nous croyons au miracle Nadal. Sachez, Pascal et Marion, bravo, vous avez gagné 2%. Nous terminons à 48-52.
Bravo.
C'est bon.
Première défaite de la journée.
Vous savez quoi ? J'espère que vous avez raison. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de voir évidemment. Nadal tendre.
Tu vois,
Zverev.
C'est là où je te reconnais, mon Christophe. C'est pour ça que je t'aime.
10h29, on se retrouve dans quelques instants pour la polémique Camara, la polémique avec cette journée de lutte contre l'homophobie. On s'empare du débat dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h34 de retour sur RMC. Un grand plaisir d'être avec vous avec une émission extrêmement animée ce matin avec mes GG Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Pascal Duprat, Fred Weiss. Dans 10 minutes, on s'en fout pas des informations à vous donner, notamment Renaud Lavillenie qui rate son retour cette semaine. Vous me direz si ça vous intéresse ou non. Et puis d'autres informations évidemment à développer, informations croustillantes comme d'habitude. C'est un morceau de scotch qui a créé la polémique. Dimanche dernier, à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1, placée sous le signe de la lutte contre l'homophobie, vous le savez, le milieu de terrain de Monaco, Mohamed Camara, a volontairement masqué le badge stop à l'homophobie, une provocation et un geste inadmissible pour les différentes associations. Rappelons tout de même que d'autres joueurs de notre championnat ont préféré tout simplement zapper cette dernière journée, prétextant une blessure. D'autres ont préféré jouer la ruse, à l'image du Lillois Bentaleb, en train de faire ses lacets pour éviter la photo protocolaire avec la banderole de lutte contre l'homophobie. Bref, la ministre des Sports a réagi dans la foulée, notamment sur l'affaire Camara. C'était lundi matin, dans la matinale de RTL. Amélie Oudéa-Castéra réclame des sanctions contre le joueur, mais aussi le club. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Je trouve que c'est un comportement inadmissible. J'ai pu d'ailleurs dire ce que j'en pensais à la Ligue de foot professionnelle hier soir. Et j'estime qu'un tel comportement doit faire l'objet des sanctions les plus fermes. À la fois contre le joueur, mais aussi contre le club qu'il a laissé faire.
Contre le joueur et contre le club qu'il a laissé faire. Et c'est ces derniers mots qui vont occuper notre débat. Faut-il sanctionner les clubs ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Non.
Marion Bartoli ?
Oui.
Pascal Duprat.
Non.
Fred Weiss.
Non, mais...
Mais t'hésites.
Oui, j'hésite.
Mais Marion peut te convaincre.
Peut-être.
Alors Marion, tu commences. Pourquoi oui ?
Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est un comportement qui est complètement inadmissible. Ce sont des journées qui sont extrêmement importantes pour justement qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'on ne stigmatise pas quelqu'un par son orientation sexuelle, et de refuser de supporter cette cause, je trouve ça absolument abject.
Mais ça, c'est le joueur.
Oui, mais que le club les laissait faire, même c'est même pas le club, j'allais plus loin. L'arbitre, l'entraîneur, parce qu'il y a des personnes sur le terrain. L'entraîneur, il est capable de dire avant son joueur, avant qu'il rentre sur le terrain, non mais Coco, t'es en train de faire quoi là ? Qu'est-ce que tu fais avec ton sparadrap ? Et puis en plus, la réponse du joueur, je la trouve d'autant plus abjecte, qu'il décrit qu'effectivement il refuse de jouer avec son logo parce que pour des raisons religieuses, disons que ça ne convient pas aux raisons religieuses qu'il a. En revanche, il accepte de jouer avec un logo d'un site qui fait des paris sportifs, donc on appelle des jeux de hasard, qui est complètement interdit dans la religion qu'il a. Donc c'est un discours qui n'a absolument aucun sens et qu'aujourd'hui j'en ai marre, mais vraiment marre, qu'à chaque fois qu'il y ait cette journée, on ait des débats où il y a des joueurs qui se retombent juste par hasard malade et qui veulent juste par hasard pas jouer ce match ce jour-là, et que d'en arriver en 2024, à se poser encore la question de se dire que c'est autorisé de cacher un logo comme ça, c'est-à-dire qu'on discrimine des gens pour les orientations sexuelles qu'elles ont, je trouve ça, mais en dessous de tout, okay, de tout. Donc et que le club les laisse faire, alors ça, je ne peux pas supporter. Il faut des sanctions exemplaires qui servent à tout le monde et qu'on arrête chaque année d'avoir ces débats parce que chaque année, ça ressort.
Et le club de Monaco a sorti le parapluie. Je vous donnerai quelques informations dans quelques instants. C'était cette semaine. Pourquoi non, on ne sanctionne pas les clubs, Pascal Duprat?
Parce que si on sanctionnait les clubs d'un geste d'un joueur professionnel, d'un geste isolé, on déresponsabilise encore une fois le joueur. Donc, sanctionnons le joueur absolument durement, comme tu viens de le dire, Marion, de manière exemplaire. Je sais pas, 10 matchs de suspension de championnat, par exemple. De toute évidence, ça sanctionnera aussi, de fait, le club. Donc, le joueur, c'est sa responsabilité. C'est inadmissible. Je suis pas certain que son entraîneur, je veux pas faire du corporatisme, je veux pas le défendre, mais l'entraîneur, je suis pas certain qu'il ait vu le joueur sortir avec son maillot et son logo. Certainement qu'il l'a vu une fois que le match a démarré. Difficile pour lui d'arrêter le match et de sortir un joueur. Il aurait fallu qu'il le voie au préalable. Je suis pas certain que ses dirigeants l'aient vu, parce que ils arrivent de l'échauffement, ils se préparent, ils mettent leur maillot, ils vont directement dans l'alignement pour aller au match. Okay, mais sans donner le joueur, il me semble que ça doit être fondamental pour le responsabiliser, non pas le club.
Ok, donc le club a des circonstances atténuantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être se mettre à l'abri et se cacher derrière le fait
dans un second temps, que le club prenne des sanctions internes, ça les regarde. Oui. Voilà.
Ok, Mohamed Camara, sachez, et vous l'avez certainement vu cette semaine, est convoqué par la commission de discipline de la LFP, et cette séance se tiendra le 30 mai, et selon quelques informations déjà que l'on a pu recueillir, pas sûr qu'il y ait une sanction sévère, mais plutôt une sanction éducative. Voilà, ça pourrait être le cas.
Qu'ils ont dit Monaco alors? Est-ce qu'ils ont dit on l'a vu et on l'a laissé faire ou non? Parce que c'est là la question. Alors, parce que tu dois les sanctionner si effectivement ils ont vu le truc, ils l'ont noté et qu'ils l'ont laissé entrer sur le terrain. Là, évidemment, le club devait être sanctionné. En revanche, s'il est passé entre les gouttes, un peu comme ce mec qui fait ses lacets subrepticement.
Le Lillois Bentaleb.
Voilà. Tu vois, parce qu'il y a aussi ça. Le club, je pense, est responsable, mais pas coupable dans cette histoire. Selon ça.
On
voit sur cette vidéo qu'il fait même pas ses lacets. Il fait semblant de faire ses lacets, donc ça va encore plus loin.
Pour ne pas apparaître sur la banderole de lutte contre l'homophobie. Écoutons Monaco. Alors, voilà. Le discours des Monégasques, même si difficile de savoir et de démêler le vrai du faux, savoir si les Monégasques ont vraiment vu ce sparadrap collé sur le badge de lutte contre l'homophobie. Thiago Scuro, c'est le directeur de football de Monaco, qui après la rencontre a été interrogé à ce sujet. Et forcément, il était gêné.
This is a very
Ce n'est pas une bonne façon de finir la saison. On est très déçus, on supporte la cause et l'action de la Ligue. On a appelé le directeur général de la Ligue pour s'excuser. Maintenant, c'est un sujet interne pour affronter cela. On doit être attentif dans nos façons d'affronter ça. On respecte toutes les opinions.
Voilà, il y a Monaco qui a présenté ses excuses à la Ligue.
Tu ne dois pas respecter cette opinion-là. Elle n'est pas respectable. Non, moi, je pense qu'il faudrait instaurer une espèce de schéma. C'est-à-dire que les dirigeants ou directeurs sportifs ou présidents de club devraient convoquer tous les joueurs qui sont susceptibles de jouer les matchs une semaine avant, de leur expliquer la situation, leur dire est-ce que vous avez quelque chose contre le fait de porter un signe distinctif pour lutter contre l'homophobie? Est-ce qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui sont contre? Voilà. S'il y en a qui lèvent le doigt, ok, t'es exclu du groupe. Toi, t'es exclu du groupe. Et au moment du match, tu dis deux de mes joueurs ont refusé le truc. Donc comme ça, tu jettes l'opprobre sur eux et en même temps, tu ne risques pas les foudres de Madame Oudéa Castéra. Il y a quand même deux joueurs sur l'ensemble des joueurs professionnels et du coup, ces deux imbéciles jettent l'opprobre sur tout un secteur professionnel, le foot professionnel. C'est ridicule. Donc autant faire les choses en amont pour éviter ce genre de choses.
C'est pour ça que j'ai répondu non, mais parce que effectivement, c'est des individus et moi, ce qui me choque, c'est qu'on sanctionne donne un club, une entité pour des individus. Sauf que pour moi, je dis non mais, parce que là, à l'instant T, non. Mais moi, pour moi, la LFP devrait, au début de chaque saison, expliquer. Voilà ce qui va se passer.
Non mais ça c'est fait.
Ce que je veux dire, c'est que passer le message au club, de dire si vos joueurs ne jouent pas, il y a un vrai problème, et donner des armes au club aussi.
Mais attends, mais certaines personnes des associations, et ça fait des années que ça dure, c'est pas la première fois qu'il y a une journée de lutte contre l'homophobie, les associations se rendent dans les clubs.
Je sais qu'il y a des journées de sensibilisation, mais c'est pas ce dont je parle.
Mais avec les clubs professionnels.
Mais oui, je sais qu'il y a ces journées de sensibilisation dans les clubs professionnels, etc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que il faut donner cette non-alternative, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'as pas le choix. Dès le départ, il faut que tu interroges tes joueurs. S'ils ne jouent pas, il faut que tu le saches dès le départ.
Allons un peu plus loin, parce que là où je suis pas d'accord avec vous, où vous me dites il ne faut pas sanctionner les clubs, évidemment le joueur, et je comprends, c'est le premier responsable, mais tout de même, quand on fait, là je m'adresse à toi Pascal, quand on fait un recrutement, il y a aussi les valeurs d'un club, les valeurs que véhicule un club. Quand on s'intéresse à un joueur, on ne s'intéresse pas qu'à son pouvoir footballistique, on s'intéresse aussi à sa façon de penser, aux valeurs qu'il défend, non ? Est-ce que les clubs, à un moment donné, sont pas responsables dans leur recrutement ?
En fait, il y a des filtres. Les clubs procèdent tous de la même manière. Ils veulent le meilleur footballeur avec le meilleur homme possible. Mais tu peux pas tout contrôler, malheureusement. Et je pense que dans les entretiens, donc on va dire d'embauche, parce que ça existe, on doit prévoir toutes ces éventualités-là pour ensuite pondérer, à savoir... prendre la balance, est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on le prend pas. Mais cela dit, quand vous sanctionnez, pour ma part, quand vous sanctionnez le club, vous déresponsabilisez le joueur. Donc sanctionnons le joueur et qu'ensuite
oui,
le
mais
club...
ça peut redescendre, c'est-à-dire que tu sanctionnes le club qui re-sanctionne le joueur en fait.
Fred, on n'a pas la mesure du scandale que c'est. Franchement,
c'est un scandale.
C'est aussi scandaleux que les abrutis qui font des cris de singe dans les tribunes, qui te traitent de salarabe sur le terrain, de sale noir ou de sale français.
C'est un scandale. C'est un énorme scandale.
Moi, je suis alors
pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Je fais partie de cette corporation, mais franchement, je me sens pas responsable. Très franchement, c'est un acte isolé, parce que 99,99 des footballeurs sont naturellement, depuis leur tout jeune âge, confrontés à ces problèmes-là, qui n'en sont pas pour nous. On joue avec tout le monde, qu'on soit blanc, beurre, blanc ou noir, ou qu'on soit homo ou que sais-je encore, mais on s'en fout, on vient jouer au foot, tout simplement.
Pour moi, j'aimerais aller plus loin dans le championnat de France, avec les lois françaises, et tu as raison complètement, Fred, de rappeler, aujourd'hui, c'est puni par la loi d'être homophobe. Donc j'aimerais rajouter dans les contrats signés dans des clubs français qu'un joueur qui ne respecte pas la journée contre l'homophobie ne peut pas jouer dans le championnat français. Et aujourd'hui, pour moi, ça doit être porté au niveau d'une loi d'un pays et pas uniquement d'une décision d'un joueur ou d'un club. Je pense que ça sera la seule manière pour qu'on arrive vraiment à, entre guillemets, arrêter et éradiquer ce genre de comportement.
Et souvenez-vous tout de même, et ce sera pour clore ce débat, mais je pense qu'il ne faudrait pas avoir la mémoire courte, mais Dejan Lovren, le joueur de Lyon, qui avait été récupéré par Lyon, et quelques vidéos sur les réseaux sociaux avaient circulé où il y avait des chants homophobes, des chants nazis, et l'Olympique Lyonnais, même le staff, et même Laurent Blanc, je me souviens en conférence de presse, avait dit « mais moi je ne regarde que le sportif ». Et quand on regarde que sportif, ben voilà ce que ça donne et voilà les cas que cela peut donner. C'était important d'en parler dans les grandes gueules du sport ce matin. Allez, on revient dans les GG pour du sport. Là, on va revenir au sport évidemment avec du Renaud Lavillenie, avec l'escrimeuse Tibus qui a été innocentée, ou encore Jean-Michel Aulas qui a dû faire un choix entre Lyon-Barça, les féminines en Ligue des Champions aujourd'hui, et puis la finale de la Coupe de France. Vous entendrez son choix dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Toujours avec Marion Bartoli, Pascal Duprat, Fred Weiss, Christophe Cessieux à partir de 11h. Amoureux du rugby, amoureux du sport. Restez bien avec nous. La finale de Champions Cup entre Toulouse et Leinster. Et cette question, le Stade Toulousain est-il le plus grand club de France ? Tous sports confondus, ça va être un débat très intéressant et c'est la première fois qu'on va se lancer dans ce débat dans les GG. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Renaud Lavillenie qui rate son retour. On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
Non, on ne s'en fout pas.
Pascal Duprat.
Je vais laisser Christophe.
Ok, on s'en fout. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Ok, Fred Weiss.
Je m'en fous pas.
Le perchiste, donc Renaud Lavillenie, en quête des minima olympiques pour participer à ces Jeux olympiques de Paris, n'a franchi aucune barre mercredi à Clermont-Ferrand pour son grand retour après 10 mois sans compétition et une opération aux ischio-jambiers en septembre. Le champion olympique 2012 a échoué à 3 reprises. À 5,35 m, Renaud Lavillenie a jusqu'au 30 juin pour réaliser ses minima fixés à 5,82 m, une barre qu'il n'a plus franchie depuis juillet 2022, donc depuis 2 ans. Écoutez, Renaud Lavillenie, frustré, mais quand même positif, après justement ces 3 sauts échoués.
Beaucoup de frustration, de toute façon personne n'aime faire une première ratée. Pas mal de déceptions parce que clairement je m'attendais à faire nettement mieux. Beaucoup ont fait zéro, de toute façon c'est difficile de faire pire. Mais je dirais dans un sentiment un peu partagé et parallèle, j'ai fait quand même un super échauffement. Il y a des choses qui se sont mises en place, comme je l'avais dit avant, je m'attardais pas non plus que à la performance, il y avait aussi la manière. Là clairement j'ai fait des choses que je savais faire quand ça allait plutôt bien, donc c'est ça qui est encourageant.
Ok, frustré, mais c'est encourageant. Christophe, ton regard.
Ouais, moi je trouve ça plutôt inquiétant. Enfin, pas inquiétant, parce que c'est son meeting de rentrée, mais faire zéro, évidemment, ça va pas lui filer beaucoup d'enthousiasme et de confiance. C'est un peu différent de Kevin Mayer, qui lui est une vraie chance de médaille. On sait que Renaud, malheureusement, il postule pas pour une médaille, mais bon, ce serait tellement beau de le voir partir dans ces Jeux Olympiques à Paris après tout ce qu'il a apporté au sport français. Mais bon, le minima, je crois, c'est 82,
c'est beaucoup.
Ça fait longtemps qu'il les a pas franchis. Hein.
Il va enchaîner les meetings là, d'ici.
Il n'a pas le choix, hein, concrètement, parce qu'il a jusqu'au 30 juin, effectivement. Donc 5-82, ça s'approche. Et il était quand même à la maison un peu, parce qu'il est auvergnat, c'était chez lui. Bon. Donc c'est vrai que ça doit l'inquiéter un petit peu quand même.
Ok, Marion.
Non, exactement la même chose que mes copains. La seule chose aussi que je vois, c'est que la meilleure barre de Renaud Lavillenie, c'était en 2014 à 6,16 m. Que là, il y a quand même un gros gap entre pas arriver à franchir 5,35 m et arriver à faire 6,16 m. Donc j'espère qu'il va arriver à retrouver son niveau, parce qu'une opération au disque jambier, c'est quand même difficile de revenir. Donc bon, j'espère vraiment pour lui qu'on le verra.
J'ai envie de faire un parallèle avec Nadal.
Nadal, j'ai exactement ce que j'allais faire.
Quand est-ce que Nadal a gagné son dernier grand chelem? C'est pas en 2014?
Ah, bonne réponse. On peut ne pas être d'accord, mais bonne réponse.
Il s'est fait opérer de quoi depuis 2022? C'est pas les ischios.
Non, pas les ischios.
Mais c'est quoi? C'est une blessure.
Les amygdales.
Amygdales? Okay. C'est quoi, non?
On revient pas sur Nadal. On est pris par le temps.
Deuxième info. La hanche, ça sert à rien pour jouer au tennis.
Pascal, un mot sur la hanche? Non.
J'ai pas le droit de parler.
Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'escrimeuse, Lisa Horatibus, innocentée après son contrôle antidopage. On s'en fout pas. Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Marion Bartoli.
On s'en fout pas.
Pascal.
Je m'en fous pas.
Il
est en fout pas.
Il le dit en riant.
Tu bluffes,
Marion. Tu peux l'interroger en premier, s'il te plaît.
Christophe.
Non, moi, ça m'intéresse. Mais j'ai vraiment envie d'entendre.
Déjà, je vais vous conter cette histoire. Voilà, parce que déjà, ça va vous faire réagir forcément. C'est un immense soulagement tout d'abord pour Lisa Horatibus. L'escrimeuse a été blanchie mardi par la Fédération internationale d'escrime après un contrôle anormal survenu en janvier qui remettait évidemment en question sa participation aux Jeux Olympiques. Lisa Horatibus était suspendue provisoirement depuis le 9 février dernier, après donc un contrôle positif à l'ostarine. Dès le début, la vice-championne olympique de Tokyo avait exposé une ligne de défense claire en assurant avoir été contaminée par son conjoint, ancien escrimeur, qui a avoué consommer de l'ostarine. L'escrimeuse avait plaidé la contamination par fluide corporel, comprenait un baiser. Le professeur, et c'est là que ça devient très intéressant, Jean-Claude Alvarez a multiplié les tests capillaires et urinaires et a reconstituer la journée du test positif avec les intéressés. Dans les analyses d'urine effectuées après la reconstitution, il a retrouvé les mêmes taux d'ostarine, prouvant, selon lui, qu'Isa Horatibus avait bien été contaminée par son compagnon. Ils se sont embrassés à midi, parce que c'est ce qu'ils avaient dit à l'époque, au début d'année. Et le soir, elle était positive. Elle n'était pas positive à 11h. Ils s'embrassent à midi, elle est positive le soir même. Justement Jean-Claude Alvarez sur son étude.
Il faut vraiment qu'on arrive à attraper, condamner ceux qui se dopent, ceux qui trichent, mais qu'on arrête de punir ceux qui ne se sont pas dopés et qui se sont contaminés. Donc voilà, Isaura, on a fait le tour de la question. J'ai reproduit exactement ce qui s'était passé le 14 janvier chez eux. Il a repris une dose, j'ai fait des prélèvements chez elle, et j'arrive exactement à la même concentration qu'elle a eue le 14 janvier chez elle, à la même heure, à 22h30 le soir, 13 nanogrammes par millilitre. Donc c'est clair, il a pris de l'ostarine sans qu'elle le sache, en cachette. Elle n'est pas responsable de ce que fait son copain. Ils sont majeurs tous les deux et il l'a contaminé. Et j'ai prouvé par cette étude scientifique que j'ai publiée, qui est reconnue dans la littérature mondiale scientifique, que ça peut arriver. Bah, ils l'ont accepté, c'est très bien. Moi, je trouve qu'on arrive à des raisonnements normaux, je dirais, dans le monde du dopage.
Et c'est une défense qui a convaincu, donc, vous l'avez bien compris, la Fédération internationale. Pascal Duprat.
Oui, j'avais juste une question à poser. À qui profite l'escrime?
Ok.
Il a bien fait d'intervenir.
T'as bien fait de venir aussi. Ouais. Mario Bartoli.
Non, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, malheureusement pour cette athlète, elle s'est retrouvée quand même sous le feu des projecteurs en étant stigmatisée, traînée dans la boue, elle est dopée, et que heureusement les procédures sont allées quand même extrêmement vite pour lui donner la chance de pouvoir faire les Jeux de Paris, qui sont quand même une chance.
C'est fou cette étude
unique.
D'arriver à prouver que bah oui, il y a bien des raisons qui montrent.
Mais on refit la scène, on se fait en bras.
Richard Gasquet aurait bien aimé avoir tel professeur il y a quelques années, lorsqu'il avait été convaincu de dopage, enfin de
prise de cocaïne,
contrôlé positif à la cocaïne, et qu'il avait dit qu'il avait embrassé une fille dans une boîte de nuit à Miami. À l'époque, tout le monde lui était tombé dessus, effectivement.
Il n'y avait
pas le professeur Martinez.
Non, c'est le professeur Alvarez. C'est le professeur Alvarez, s'il te plaît.
Ça, c'est le traiteur insétable. Ça n'a rien à voir. Vas-y,
La seule chose aussi, c'est que du coup, quand même, elle se retrouve sans entraîneur juste avant les Jeux Olympiques, parce que c'était son compagnon et entraîneur, qui est un Américain, un race. Imboden.
C'est ça.
Donc, il va falloir préparer aussi ses JO.
Un peu sulfureux.
Pourquoi
elle l'a mis de côté.
Ah, pour éviter d'autres problèmes, etc.
Il s'embrasse par WhatsApp. Par contre, je voudrais dire une chose. Le professeur Alvarez, il va avoir du boulot, parce qu'il y a d'autres sports qui sont intéressés par ses études. J'en suis sûr.
Il y a quelques temps.
Oui.
Hein, c'est lui.
Bah, ouais, sauf que ça marche pas à tous les coups. Là, c'était vrai, ça a été prouvé.
On va le mettre dans le vélo, et vous allez voir, il va redonner une image. Non, mais
Simona Halep, c'est juste une réduction de peine.
Magnifique.
Ah oui. C'est pas une non-condamnation.
Alors que là, elle a été blanchie
par la
Fédération internationale. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ce sujet. Un samedi magnifique sur RMC avec la finale de la Coupe de France, la finale de la Ligue des Champions féminines. C'est à 18h, Lyon-Barça. La finale de la Champions Cup, on en parle dans quelques instants. 15h45, Toulouse-Leinster. Et puis également la finale de la Coupe d'Angleterre entre les deux Manchester. Bref, restez bien avec nous. On a encore beaucoup de choses à vous dire dans cette émission. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Grande gueule du sport.